Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, heureux de vous retrouver comme à chaque semaine. Le goût de la musique et du piano lui vient probablement de sa mère. Issu d'une famille très modeste, il commence à jouer à l'oreille dès son enfance et va entreprendre des cours de piano à l'âge de 14 ans. Ses premières expériences devant public furent de jouer tous les dimanches à l'église dans ce qu'on appelait à l'époque les messes rythmées. Son premier engagement professionnel fut celui d'être pianiste pour le chanteur Michel Louvain, mais on ne compte plus maintenant le nombre de célébrités devant qui il a eu la chance de se produire, de la présidente de l'Islande au duc d'Édimbourg. Avec nous aujourd'hui, Richard Abel. Bonjour Richard.
Bonjour Monsieur Dubois.
Vous avez joué un peu partout et vous avez eu une carrière brillante, mais tardive.
Oui, effectivement. Mais vous savez, j'ai débuté, quand vous disiez tantôt que je proviens d'une famille très modeste, mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musique comme gagne-pain, car dans notre famille, nous avions un oncle qui était alcoolique et qui jouait dans les bars de troisième ordre.
D'accord.
Dans les cabarets, tout ça. Alors, j'étudiais pour devenir médecin.
Ah, tiens.
Et puis, aujourd'hui, on dit que je soigne peut-être les gens avec ma musique.
Sans aucun doute.
Et j'ai commencé très tard donc à prendre des cours de piano parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, Armand, les filles apprenaient le piano et les gars jouaient au hockey. Mais vous voyez...
Quelle belle image.
Oui, voilà. Mais on se faisait taquiner à l'école lorsque les garçons, on étudiait le piano. Mais maman jouait du piano à l'oreille. C'est elle vraiment qui m'a donné le goût de jouer du piano.
Et c'est pour ça que je disais carrière tardive, même si on parle de 14 ans, parce que vous vous êtes mis au piano bien avant l'âge de 14 ans avec maman.
Oui, c'est ça. Nous avions un piano à la maison, chez grand-mère surtout. On habitait chez grand-maman. Et je touchais le piano toujours, mais... Maman dit, fais donc pas comme moi. Apprends donc la musique. Apprends la lire. Elle souffrait de ça. Et puis,
Est-ce que vous vous débrouilliez bien quand même à l'oreille avant de prendre des cours?
Oui, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Mais, même quand je jouais à l'église dans les messes rythmées, j'étudiais au cégep en médecine, en biologie, en biochimie. Et c'est pour ça que j'ai commencé tardivement et j'ai commencé en accompagnant des artistes. Et c'est seulement qu'en 1980 que j'ai enregistré un premier disque et tout ça.
J'évoquais Michel Louvain. Oui. Ce fut vraiment la première personnalité qui vous a ouvert un peu la voie du monde artistique?
Oui, effectivement. D'ailleurs, j'étais au cégep en musique. Là, j'avais, à un moment donné, bifurqué pour la musique. Et sur un babillard, il y avait un chanteur qui se cherchait un pianiste accompagnateur, un chef d'orchestre. Et j'ai appliqué, et c'était Michel Louvain, et j'ai eu le poste. Mais j'étais tellement jeune, j'avais peut-être 23, 24 ans, et j'avais l'air d'un petit garçon de 17 ans. Et je manquais d'autorité envers les autres musiciens. Et un chef d'orchestre ne doit pas être seulement un bon musicien. Il doit aussi être capable de tenir sa gang, comme on dit. D'être capable de tenir son
équipe. Assumer et d'être un bon son capitaine. Leadership.
Et voilà. Ce que je n'assurais pas, j'avais pas le physique de l'emploi. Mais tout de suite après, je suis allé dans une des plus merveilleuses écoles qui soit, celle du Music Hall, avec Gilda. Alors, j'ai fait la tournée avec Gilda pendant quelques années. J'ai appris à danser les claquettes. J'ai d'ailleurs un diplôme de quatrième année de degré 4 et à chanter, à jouer des sketchs, à faire des stepettes et tout. Alors, et c'est ça, c'est la même plus belle école, la meilleure.
C'est une bonne école. Vous avez aussi, parce que vous évoquez Gilda, vous avez travaillé avec Tigus et Timus, Réal Bélan.
Mm-hmm. Oui, exactement. En fait, à un moment donné, j'ai fait Gilda un an et j'ai pris une pause. Et les comédiens Tigus et Timus sont venus me chercher, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de musique dans leur chose. Alors, j'étais plus ou moins à l'aise de faire leur travail. Alors, ils m'ont proposé d'ouvrir la deuxième partie avec mes pièces. Ah, ben là, ça prenait toute une nouvelle tournure. Alors, je pouvais donc me faire connaître davantage.
Était-ce plus facile de travailler avec M. Bélan qu'avec Denis Aymon ou vice-versa? Ou il y avait vraiment un esprit d'équipe?
Denise était plus près de nous, Timus, des musiciens. Réal était un petit peu réservé, un peu à part. Par contre, c'est lui qui nous faisait rire. Alors, vous savez, entre vous et moi, Armand, Nous étions payés pour rire parce que Tigus en ajoutait de soir en soir. Il changeait les trucs, puis on riait tout le temps. C'est une belle équipe. On l'a fait pendant 2-3 ans.
Et vous disiez que c'est une belle école. Pourquoi?
En fait, c'est surtout le musical. Parce que, vous savez, dans les cabarets ou dans les endroits où nous nous produisions, il faut gagner le public. C'est pas acquis. Et il fallait travailler fort. Et quand ce public n'aime pas, ça paraît. Ils prennent pas 4 chemins pour vous le dire. Alors, il faut performer, il faut développer un réflexe de leur plaire, d'attirer leur attention, qu'ils parlent pas et tout ça.
Et diriez-vous que c'est à partir de ce moment que vous avez commencé littéralement à construire votre public? Celui qui vous suit maintenant de façon presque, j'allais dire, c'est d'une fidélité incroyable.
Oui, effectivement. Mais je pense que les gens ressentent ma sincérité. J'aime les gens. Je les rencontre avec plaisir à chacun de mes spectacles. Et ils le sentent. Moi, j'ai assisté à d'autres spectacles. Je vois l'artiste qui vient à contre-cœur venir faire quelques autographes. Il part le plus vite qu'il peut et tout ça. Moi, je m'attarde avec eux, je parle avec eux. Je me suis rendu compte que j'aimais les gens comme un infirmier devrait ou une infirmière devrait aimer les gens pour faire le travail qu'ils font.
Mais il faut aimer le public pour faire ce métier.
Il faut aimer le public. Alors, lorsqu'on ne l'aime pas, on a un problème. Et les gens le ressentent. Voilà, tout simplement. Et il y a à peu près 15 ans, j'ai commencé dans un petit cartable à la main à entrer les coordonnées des gens qui me suivaient et à me bâtir un petit fan club. Avec la venue de l'ordinateur, maintenant c'est plus facile, les gens s'inscrivent par Internet et j'ai près de 8000 membres dans mon fan club.
Alors, pour faire plaisir à ce fan club, à ceux qui vous écoutent depuis le début de l'émission et qui ont hâte d'entendre Richard Abel au piano, présentez-nous donc votre première pièce.
Ah bien, c'est une pièce que j'ai eu la chance d'enregistrer avec l'Orchestre philharmonique de Prague en République tchèque. Je rêvais, comme tout musicien, musicienne, de jouer avec un orchestre symphonique. Et c'est arrivé en l'an 2000, au passage du millénaire. Et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Vous savez, lorsqu'on enregistre un disque, et nous sommes entourés de 56 musiciens qui nous accompagnent tout autour de nous. On se sent comme sur un nuage. Et cette pièce s'est retrouvée, la pièce que vous allez faire entendre à vos auditeurs, vos auditrices, s'est retrouvée en première position dans une station de radio pendant 8 mois consécutifs. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et à chaque fois que la pièce jouait, les gens téléphonaient pour avoir le titre, qui était l'interprète, sur quel album on pouvait la retrouver. Et c'est un magnifique duo pour violon et piano, accompagné par un grand orchestre. Ça s'intitule « Les amours lointains ». Et tantôt, si j'ai quelques secondes, je vais vous raconter une petite anecdote à propos du titre, à moins que j'aie le temps de le faire tout de suite.
Ben, alors, on écoute « Amour lointaine » et puis ensuite, on y revient.
D'accord. Thank you.
Avec nous aujourd'hui, Richard Abel, nous venons d'entendre « Amour lointaine ».
Les amours lointaines, oui.
Et ça, ça a une connotation particulière, disiez-vous.
Ben, en fait, c'est parce qu'à chaque fois que je présente la pièce, il me revient un souvenir à la mémoire. Un jour, je présentais ma pièce, Armand, dans une salle, et je dis « Voici donc les amours lointaines ». Et il y a une dame dans la salle qui me fait « Tit, monsieur Abel, on dit un amour lointain ».
Ah bon?
Alors, j'ai regardé la dame et j'ai dit « Madame, vous avez raison ».
Mais c'est pour ça que, sans vous reprendre, j'ai repris le titre qui apparaissait sur l'album.
Voilà. Alors, je réponds à la dame « Madame, vous avez raison, mais je me rappelle de ma règle de grammaire. Amour, délice et orgue, c'est féminin au pluriel. » Alors, madame, vous avez raison, on dit un amour lointain, mais j'ai raison, on dit des amours lointaines. Voilà.
Et comme il y en a plusieurs.
Ben voilà, et je conclue en disant, vous savez, dans les couples, ça devrait être toujours comme ça, avoir tous les deux raison.
Alors, je comprends votre amour lointain de tantôt. Question de rapprochement.
Oui.
Votre public, on l'a dit, il est très proche de vous parce que de spectacle en spectacle, il y a des gens qui vous suivent,
oui,
qui aiment la musique de Richard Abel. Je ne sais pas ce que vous faites à votre public, si vous l'hypnotisez ou quelle est la recette, mais il y a des indéfectibles de Richard Abel.
Effectivement, j'entendais un jour Jean-Pierre Coallier dire qu'il a composé une pièce pour une de ses fans qui le suivait partout, et même un jour il est allé en Europe et elle a pris l'avion et elle est allée en Europe. Ben, j'en ai une fan comme ça qui s'appelle Nicole Couture qui me suit partout. Elle est rendue
c'est
à 184
vrai.
Spectacles.
Voyons donc.
Elle est contente. Quand je lui ai dit « La journée que tu arriveras à 100 spectacles », on fait quelque chose. Je l'ai sorti, je l'ai emmené au Casino de Montréal voir un spectacle. Je l'ai sorti comme si c'était une copine. Là, j'ai dit, rendu à 200e, je sais pas ce que je vais faire. Elle est rendue à 183 ou 184 spectacles.
Ça veut dire que la pression est forte pour renouveler votre répertoire.
et l'année dernière, elle a pris l'avion, elle est venue me voir en Floride. Alors, mais c'est une belle folie. Elle me dit, Richard, il y a deux raisons à faire ça. Tu choisis celle des deux. Soit que je suis cinglé, ou soit que ta musique me fasse un bien tel que c'est devenu comme un besoin.
Mais vous, comment l'expliquez-vous?
Je sens que je lui fais du bien. C'est une femme qui a besoin d'être remontée, comme on dit, à l'occasion. Elle est portée un peu à la tristesse et tout ça. Elle dit, quand je ressors d'un de tes spectacles, je suis gonflé à bloc.
Mais au-delà de cette personne, il y en a plusieurs comme ça
qui
sont, je le disais, des indéfectibles supporteurs, des amoureux de la musique de Richard Abel. Oui. Vous le savez, d'ailleurs.
Oui, mais j'en prends soin de mes gens. C'est ça, il ressent d'abord la passion qui m'habite lorsqu'il vient de me voir sur scène. Parce que apprendre des commentaires des gens qui viennent nous voir à la fin, on apprend à savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Puis ils me disent toutes la même chose. Vous réussissez à nous communiquer votre passion. Et on la sent en vrai, on vous sent en vrai. C'est toujours les mêmes. On m'écrit moi, je lis toutes mes lettres, Armand, et je lis tous mes courriels. Là, je suis en retard de 2-3 mois et je rattrape mon retard pendant l'été.
Parce que je sais que vous devez en avoir des courriels.
Ben voilà, surtout à mon anniversaire, à Noël, Saint-Valentin, des trucs comme ça. Mais je finis par lire presque toutes mes lettres, au moins 99% d'entre elles. Et bon, voilà, les gens sont surpris que l'artiste réponde.
Quelles que soient vos tournées.
Mais voilà, j'accuse un retard. Alors, je le dis, il y a un préambule qui est déjà écrit. Je dis, je m'excuse d'être aussi... de vous répondre aussi tardivement, mais c'est le prix à payer si vous voulez que moi-même, j'ouvre mon courrier. Je ne permets à personne de le faire par respect pour les gens qui m'écrivent.
Ah.
Et les gens aiment mieux que je leur réponde 3 mois après, mais que ce soit moi ou que ce soit fait machinalement par des employés. Voilà.
Alors, à tous ceux et celles qui ont écrit à Richard Abel et qui sont en attente d'une réponse, ne désespérez pas. De toute façon, Richard Abel revient toujours chez lui pour parodier un peu cette chanson de Jean-Pierre Ferland.
Mm-hmm.
Je reviens chez nous, que vous avez faite. Voici donc l'interprétation de Richard Abel, de cette pièce qu'on pourrait même qualifier de classique de la chanson québécoise, mais
exactement,
cette fois en piano. Je reviens chez nous, c'est ce que vous faites constamment, malgré vos tournées internationales, Richard Appel.
Oui.
Et vous avez besoin de vous nourrir de ces racines qui sont les vôtres?
Oh oui, effectivement.
Parce qu'on se pose toujours la question de ceux qui et de celles qui font des tournées comme cela, internationales. Mmh. On les appelle souvent des citoyens du monde. Mais j'ai déjà entendu Gilles Vigneault particulièrement dire qu'on ne peut pas être citoyen du monde. On est d'abord citoyen d'une terre qui nous appartient pour ensuite se refléter ailleurs.
Exactement. Je suis d'accord avec lui. C'est ce qu'on appelle le mal du pays, je pense, lorsqu'on quitte. Et puis, on a hâte de retrouver les siens. C'est nos balises. Ce sont nos à la maison. Souvent, je fais une blague, Armand. Je dis aux gens, quand je suis à l'extérieur, je dis, j'ai hâte de retourner à la maison. Et j'ai hâte, par exemple, quand je suis en Floride, et je dis aux gens, je dis, j'ai hâte de retourner à la maison puis que maman me fasse un bon pâté chinois. Un bon pâté chinois. Réchauffé, c'est encore meilleur.
Alors, steak, blé d'Inde, patate.
Et voyez-vous, quand je dis ça, on parle de nos racines, oui. On parle de chez moi. Bien là, sûr. Les gens comprennent. T'sais. Alors, c'est bien de voyager. Comme on dit ici au Québec, ça déniaise. Et puis, mais on a hâte de revenir à la maison, c'est normal.
Je reviens à ce que nous disions précédemment lorsqu'on parlait de ceux qui vous suivent de manière presque perpétuelle. Vous avez peut-être vu le film qui a été fait sur Michel Louvain, parce que vous avez travaillé avec Michel Louvain. Dans le film dans lequel on voit cette façon que des personnes idolâtre Michel Louvain. Mm-hmm. Il y avait une dame dans... Je ne sais pas si vous avez vu le film qui a été produit sur les tournées... Et sur ce phénomène presque d'adoration d'un artiste. Une dame qui avait des photos même dans sa chambre à coucher mm-hmm. et qui partageait sa passion pour Michel Louvain avec son mari
ben oui.
et qui lui disait « Je suis pas jaloux parce que lui, il se retrouve sur des photos alors que moi, je suis réel. »
C'est ça.
Ou à peu près, mais qui le suivait en spectacle.
Mm-hmm.
C'est un phénomène qui est quand même curieux qu'on puisse développer cette forme, j'allais dire, d'intimité tout en étant quand même pas nécessairement un proche de la personne que l'on admire.
Mm-hmm.
L'artiste, lui, comment sent-il cela?
Ben, parfois, il faut juste porter attention à ce que ça aille pas trop loin, qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Et ça nous arrive tous qu'il y a des gens qui la franchissent. En un cas où j'ai pleuré de voir la situation de cette dame qui était tombée en amour avec moi, mais d'une façon, elle s'est ramassée à Hippolyte Lafontaine. Les médecins m'ont téléphoné. Je recevais des lettres. Elle fabulait. Elle me voyait passer tout près de chez elle. Elle a dit, hier, t'as passé dans un camion. T'étais enveloppé d'une couverture. Je t'ai reconnu juste à la dernière minute. Bon, elle m'a envoyé une lettre. Bon, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais être au coin de telle rue avec ma valise. Je t'attends. Je vais te rendre heureux. Bon, voilà. Et ça fabulait. Elle me voyait partout. Et c'était triste parce que c'était une dame qui était... pourtant réservée, tu vois, lorsqu'elle venait me voir en spectacle, elle était dans son coin, et puis à peine un petit sourire, une poignée de main, mais c'est ses lettres. Et elle a dû être traitée, et on a dû l'interner, et c'est incroyable. Il y en a d'autres où est-ce qu'ils vont franchir cette ligne, mais ils le font de façon un peu vulgaire, et puis là, on dit non, c'est assez. Alors, je dois donc à l'occasion... Alors, je dois faire attention. Et nos gestes, un sourire, une poignée de main, une accolade... Il faut essayer de distinguer la personne avec qui on l'a fait. Et puis on les sent des fois, des gens qui sont prédisposés psychologiquement à avoir une dépendance envers l'artiste ou à un fanatisme trop prononcé. Alors, il faut faire attention. Moi, je suis un colleux, comme je vous disais tantôt. Je suis comme Claire Pimparé. Moi, quand je rencontre les gens, c'est des grosses accolades.
Des gros câlins.
Des gros câlins, tout ça. Mais là, je dois quand même faire attention parce que si on le fait à certaines dames, elles peuvent interpréter ça d'une certaine façon. Et puis, donc, j'ai eu à gérer des cas un peu compliqués, mais quand même, c'est des exceptions.
Mais c'est intéressant ce que vous racontez parce que ça nous permet aussi de comprendre, j'allais dire, l'envers de la médaille ou l'autre côté du miroir. Lorsqu'on voit un artiste, bien sûr, on voit ce qu'il personnifie, mais derrière l'artiste, il y a aussi l'homme ou la femme qui a une vie parfois tout à fait normale et avec ses peines, ses joies, ses difficultés et bien sûr aussi ses réussites. On va terminer cette première demi-heure, si vous voulez bien, Richard, avec une belle pièce que vous avez sortie, j'allais dire presque des boules à mythes,
oui.
N'est-ce pas,
oui.
Qui a été refaite il y a quelques années par Fabienne Thibault.
Mm-hmm.
Mais c'est une chanson que l'on chantait dans le temps de la bonne chanson.
Exactement.
Cette chanson a pour titre...
La chanson des blés d'or que beaucoup de grands-papas chantaient aux grands-mamans, mignonne quand le soir descendra sur la terre.